Donc, Ansara produit, écrit des protocoles d'action et des scripts inspirés des mouvements économiques et de la théorie de jeu. Elle place ces règles strictes comme principe de ses performances. Ses recherches interrogent les relations individuelles ou collectives au sein des stratégies et d'espaces communs, notamment sur les espaces d'exposition. C'est bon?
C'est bon.
Voilà, donc je ne sais plus ton titre d'aujourd'hui.
Oui, bah ça tombe bien parce que j'ai changé de stratégie. Voilà.
Ok.
J'avais prévu, vu qu'on évolue dans un contexte hautement incertain. Aujourd'hui, en fait, ce que je vous propose, c'est une initiation à la théorie des jeux, mais assez standard, qui va permettre d'éclairer certaines choses qu'a pu raconter Anna. Puisque, à moins que vous ayez fait Sciences Po, ce qui est le cas, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je suis désolée parce que ce que je vais expliquer, à mon avis, c'est des choses que vous avez déjà vues il y a quelque temps. J'imagine que vous ne savez pas ce que c'est un concept d'équilibre en théorie des jeux, qu'est-ce que c'est l'axiomatique de l'agent rationnel, etc. Et notamment, je fais cette présentation pour Raphaël et Fabien, parce que je sais que ça va leur être utile. Donc voilà. Alors, juste pour me présenter quand même très rapidement, j'ai moi-même un parcours très incohérent. Donc, je suis chercheur en économie de l'environnement. Je travaille au Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Je suis maître de conférence aussi à l'école d'agronomie de l'INRA Montpellier en économie. Et j'ai une expertise en théorie des jeux. Et je suis aussi artiste. Au départ, ma pratique, elle part du texte, bon, on s'en fiche. Mais en ce moment, en fait, je fais un DSRA, c'est l'équivalent des troisième cycles dans les écoles d'art, à l'École supérieure d'art d'Annecy. Et en fait, l'idée, c'est que j'organise un escape game qui s'appelle Escape the Museum dans le contexte muséal, et donc qui est un escape game un peu méta sur l'art. Voilà, pour dire ça rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, je vais m'exprimer en ma qualité de théoricienne des jeux et aussi de maîtresse de conférence. Et je vais tenter en 25 minutes, 20 minutes même, de vous expliquer ce que c'est un concept d'équilibre, quelle est l'interprétation du prisme évolutionnaire sur le concept d'équilibre de base de la théorie des jeux, qui est l'équilibre de Nash. Qu'est-ce que ça nous dit des conventions avec des applications en finance et puis aussi sur d'autres questions plus d'ordre de lifestyle. Donc ça sera la conclusion. Alors un peu d'histoire très rapide sur la théorie des jeux. Donc la théorie des jeux, c'est une extension de la théorie de la décision en environnement risqué. Telle qu'elle a été développée milieu du XXe par von Neumann et Morgenstern, qui ont écrit un livre en 1944, dans lequel ils définissent un ensemble minimal de propriétés dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient vérifiées par les décisions que prend un agent dit rationnel. Donc cet ensemble, c'est une axiomatique qu'on appelle l'axiomatique de l'agent rationnel. Alors pour vous donner un exemple facile à comprendre de l'axiomatique, c'est l'axiome de transitivité. Donc, si je préfère A à B et B à C, alors si je suis rationnel, on peut s'attendre à ce que je préfère A à C. Ça, c'est l'axiome de transitivité. Il y a aussi l'axiome de complétude qui dit je peux toujours ordonner A et B, c'est-à-dire que je peux toujours dire que je préfère l'un à l'autre, même faiblement. Je peux toujours les mettre en relation. Un axiome de pertinence, de monotonie. Voilà. Il y en a comme ça 5 à 10 selon la manière dont on les définit. Et ils forment donc l'axiomatique de l'agent rationnel. À partir des énoncés de l'axiomatique, on va pouvoir les combiner et déduire d'autres énoncés logiques qui vont former la théorie de la décision. Alors, quand je disais je préfère A à B, B à C, en fait, les décisions, elles portent sur des loteries. C'est-à-dire qu'on considère que l'agent ordonne des situations risquées dont les réalisations sont quantitatives et comparables. Par exemple, est-ce que je préfère obtenir 50 € avec certitude ou est-ce que je préfère obtenir 100 ou 0 avec une chance sur deux. Donc ça, ce sont deux loteries que je vais pouvoir classer en fonction de ce qu'on va appeler mes préférences. Par exemple, en tant qu'agriculteur, est-ce que je choisis la monoculture ou est-ce que je choisis un portefeuille de cultures qui réagissent différemment aux aléas climatiques? Ça, c'est une loterie. Alors, on peut ramener cette question à une loterie dès lors que l'on peut associer un chiffre aux différents scénarios climatiques et de récoltes associées. Et le plus évident va être de considérer leur valeur monétaire. En tant qu'agriculteur, est-ce que je vends ma récolte sur les marchés à terme à un prix fixé en avance ou est-ce que je la vendrai au prix du marché au moment de la récolte? On parle encore de loterie. On peut ramener ces situations à des choix entre différentes loteries. Dans la théorie de la décision, le gain de l'agent dépend de son choix et d'un aléa, plus précisément de la réalisation d'une expérience aléatoire. On appelle ces réalisations les états du monde. Oui, donc en théorie des jeux, on est très poète, en fait. Donc, on appelle ces réalisations les états du monde. Par exemple, si l'expérience est de jeter une pièce de monnaie, les états du monde vont être pile et face. Donc, ça, c'était la théorie de la décision. La théorie des jeux, elle va faire l'hypothèse que l'agent n'est pas seul à choisir. Il choisit en présence d'autres agents et ces agents sont tous interdépendants stratégiquement, c'est-à-dire que le gain du joueur 1 va dépendre de son choix, mais aussi du choix du joueur 2. Et ils ont conscience de cette interdépendance stratégique, ce qui signifie que dans le résultat induit par le choix que je vais faire, il va y avoir l'aléa exogène qui va jouer, mais aussi la décision prise par un tiers. Comme ça, les agents deviennent des joueurs et les différentes alternatives forment ce qu'on appelle l'espace de leur stratégie. On va résumer ces situations par des matrices de paiement. Et donc, chaque matrice va indiquer les paiements pour chaque joueur, choix de stratégie et état du monde. Donc là, il faudrait que j'arrive à faire un partage d'écran. Partager l'écran. Voilà, là, je vous ai mis trois matrices de paiement qui correspondraient à des états du monde différents. Alors, j'ai fait exprès de vous présenter ce qu'on appelle des jeux de coordination, qui sont les jeux auxquels Anna a fait référence. Ok, donc là, vous voyez, en fait, il faut imaginer que vous avez le joueur 1 qui peut choisir entre une action A et B, le joueur 2 qui peut choisir entre une action A et B, et les chiffres que vous voyez, par exemple, sur la première case dans la première matrice des paiements, 3, 2. 3 correspond au gain du joueur 1 quand il a choisi A et que le joueur 2 a choisi A. Le 2 à côté, il correspond au gain du joueur 2 quand il a choisi A et que le joueur 1 a choisi A également. Donc voilà comment on construit une matrice de paiement. Donc maintenant, il faut que je revienne à ma présentation. Ok. Donc, je disais, une fois qu'on a construit ces matrices de paiement, le travail du théoricien des jeux va être de répondre à la question « Quelle est l'issue du jeu ?» Donc, on réfléchit aux propriétés que devrait vérifier une telle issue, et en bon physicien raté, on se dit que cette issue devrait être stable. Donc, on formule des concepts d'équilibre. Qu'est-ce que c'est un concept d'équilibre? C'est un ensemble d'hypothèses sur l'issue du jeu. Le concept d'équilibre le plus connu est l'équilibre de Nash. Et donc, l'équilibre de Nash dit qu'à l'équilibre, aucun joueur n'a d'incitation unilatérale à dévier. Ça veut dire, étant donné ce qu'a choisi l'autre joueur, mon choix est ce qui me rapporte le meilleur gain. Et ceci est vrai aussi pour l'autre joueur. Donc, si on reprend... vous les voyez toujours, les matrices de paiement? Oui. Ce que j'ai mis en gras, ce sont les équilibres de Nash. Donc, par exemple, dans la première matrice de paiement, si on regarde la quatrième case, 2, 3, En fait, ce qu'on voit, c'est que donc, c'est le cas où le joueur 1 choisit l'option B et le joueur 2 choisit aussi l'option B. Si le joueur 1 décide de choisir l'option A, sachant que le joueur 2 choisit l'option B, au lieu d'avoir 2, il va avoir 1. Donc, il n'a pas d'incitation à dévier. On fait le même raisonnement pour l'autre joueur. S'il choisit l'option A au lieu de choisir l'option B, étant donné que le joueur 1 choisit bien l'option B, il obtiendra 0 plutôt que 3. Donc, il n'a pas d'incitation à dévier. Donc, là, on voit qu'on est sur un équipe de Nash. Ce profil de stratégie satisfait les propriétés de l'équipe de Nash. Donc, voilà comment on définit un équipe de Nash en stratégie pure. Là, vraiment, je vous présente les cas les plus basiques. Mais je pense que ça suffira. Donc, voilà.